Alors, on commence ce matin par, et on l'avait pas mal dit, là. En fait, toi, tu l'avais souligné en disant, je regarde le système, on comprend qu'on veut aider les gens rapidement en période de crise, mais il y a des cas de fraude qui se multiplient là, dans le cadre du programme canadien d'urgence.
On en parle dans la presse plus ce matin, un dossier qui dit, dans le fond, très facile de créer un compte sur une banque virtuelle, style Paul, disons-le, Tangerine. Donc, tu vas sur Tangerine, tu te crées un compte, tu vas l'identité de quelqu'un, tu vas sur mon dossier, tu fais la demande de PCU. Je vous demande, je pose la question là, à ceux qui écoutent présentement, combien de fois vous êtes allé sur mon dossier si vous n'êtes pas sur l'assurance emploi ou autre? Il y en a qui y vont pas souvent. Et c'est peut-être un premier contrôle à faire comme citoyen. Si vous avez peur d'être fraudé, allez voir si vous avez quelque chose d'ouvert sur la prestation canadienne d'urgence. Ce matin, je suis allé moi-même pour vérifier et on voit que ça se fait quand même assez rapidement via l'ARC. Le problème, c'est que les fraudeurs sont brillants. Si tu as fait ta demande via l'ARC, ils savent que le gouvernement, au départ, ne faisait pas une vérification si tu avais demandé aux deux systèmes, soit l'ARC et Ressources Canada. Alors, les fraudeurs allaient des fois sur l'autre système demander une demande en ton nom et tu le savais même pas. Alors, c'est de donner une idée comment il y a zéro contrôle au départ et on a beau parler d'efficacité, ça vient démontrer à quel point c'est important d'avoir des contrôles financiers dans la vie, que c'est pas là pour le plaisir, c'est là parce que où il y a risque de fraude, il y a fraude. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire du niveau du gouvernement, c'est de dire, OK, si on nous demande de déposer un chèque dans une banque virtuelle et que la personne est déjà inscrite avec un autre compte de banque, il pourrait y avoir une détection informatique. On pourrait aussi dire, écoute, si jamais le compte, l'enregistrement via le dépôt direct est récent, il pourrait y avoir peut-être certaines vérifications, surtout là.
Tu veux dire, le compte venait tout juste d'être ouvert, là.
Exact. Et surtout déclaré au gouvernement. Tu sais, quelqu'un qui est sur l'assurance emploi depuis des années, est enregistré dans mon dossier depuis des années avec un dépôt direct à un compte, puis tout d'un coup, il décide d'associer ça à un autre compte. Comment ça, tu sais? Ça se peut qu'il ait changé de compte. Mais ça pourrait te donner une liste de détections à voir. L'autre point, c'est, t'as deux systèmes au gouvernement du Canada. Est-ce que tu pourrais juste comparer les deux systèmes, t'assurer qu'il n'y a pas des NOS dans les deux systèmes, des numéros d'assurance sociale qui sont demandés dans les deux systèmes pour la même demande? Et l'autre point est très important. Les assistés sociaux, écoute, c'est très simple. Si les provinces envoient les NOS de tous les assistés sociaux au gouvernement du Canada, puis que tu rentres ça dans la base de données pour dire, mets-toi une fonction if ce numéro d'assurance sociale-là est utilisé dans les banques de données d'assistance sociale, c'est parce qu'il n'y a pas droit à la PCU. On va pas me dire que ça prendrait des lunes à faire ça. Ça, c'est le problème que je trouve vraiment. On a voulu aller vite, mais il y avait certaines situations où on aurait pu valider. Et tu vas voir qu'en fin d'année, là, en 2021, quand il y a des Québécois et des Canadiens qui vont se lever un matin et recevoir un T4A de 8 000 $, comme quoi ils ont reçu la PCU en 2020, ils vont appeler le gouvernement puis ils vont dire « Hey! Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai pas, moi, eu de PCU. » Et là, on va avoir un contrôle détectif. Les gens qui auront été fraudés auront un T4A pour un montant qu'ils n'auront pas touché et ils vont se plaindre.
Mais le vol d'identité, on a beaucoup parlé au début de l'année, là, puis avec la crise, on a oublié ça. Mais tu sais, je regardais en fin de semaine, là, un des clowns, ça a l'air, qui était dans l'affaire de Desjardins, là, qui a acheté des données, est encore actif, là, fait des prêts. Mais tu dis, coudonc, ils vont-tu finir par arrêter quelqu'un dans le dossier de Desjardins? Ils vont-tu finir par... Tu sais, c'est... Tu sais, le gars, là, on voit son nom, on voit sa face, on publie le nom des complices, ou en tout cas ceux qui en ont bénéficié.
Puis pendant une fois que c'est parti, hein, c'est comme une rumeur, tu peux plus l'arrêter.
Ben là,
donc une fois que les données sont parties dans l'univers, et c'est une réalité à laquelle on doit s'habituer, parce qu'on donne tellement de données tout le temps. T'sais, tu vois,
mais je regardais la fraude là, d'assurance emploi aux États-Unis, c'est à coût de 50-100 millions. Actuellement, c'est-à-dire que les systèmes là, ils sont conçus, puis il y en a qui pensent qu'elle est déjouée, puis qui réussissent quand même à le faire assez bien.
Et c'est pour ça que les emplois qui étaient avant des contrôles papier sont devenus des contrôles informatiques de la programmation, de la détection, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce niveau-là.
En terminant, le Parti québécois qui a des propositions pour le restaurateur et le libraire.
Oui, il y a deux questions. Le libraire, c'est une proposition intéressante au niveau de la chaîne de distribution. On dit, regarde, pourquoi le libraire pourrait pas faire comme le restaurant puis avoir un livre pour emporter? Même, Paul, j'ajoute une proposition. On pourrait avoir un peu comme dans le temps de Club Columbia, hein? La sélection du libraire du mois. T'arrives chez le libraire puis tu dis, je veux un roman, puis tu dis, ma sélection du mois, c'est un tel. Donc, il pourrait faire une proposition, avoir un kiosque à l'extérieur ou à l'entrée. Donc, ce serait intéressant. Évidemment, les libraires perdent beaucoup présentement parce que ce sont ceux dans la chaîne du livre qui prennent un gros risque, payent des locaux commerciaux, n'ont pas des énormes marges et en plus se disent, bien, les gens achètent des livres de façon impulsive des fois. Tu rentres dans la librairie, tu fais des achats et là, on pourra plus te toucher. Alors, effectivement, c'est une bonne proposition de dire, est-ce qu'on peut leur trouver une façon de vendre et aider les auteurs du même coup? De l'autre point, subventionner les restaurateurs, ça, c'est un petit peu plus litigieux parce que on a déjà la PCU pour les employés, les subventions salariales potentielles dans certains types de commerces, on a les loyers à la réduction possible de 75% des loyers. Là, on dit on devrait compenser les restaurateurs pour la perte de revenus et les rémunérer en fonction de ça. J'apporte un bémol, c'est de dire, dans la restauration, et on en parle depuis 2015, il y a une sursaturation de l'offre. Et donc, déjà dans un contexte normal, il y a des problèmes au niveau de la capacité d'un restaurant à survivre. Alors déjà, post-COVID, on voudrait aider des commerçants qui vont peut-être mourir de toute façon. C'est aider des individus qu'on veut ou aider un commerce? Et c'est ça la
mais
question.
Je te donne l'exemple. Tu sais, des restaurants, là, puis on en connaît tous, où, si on veut respecter les normes de santé publique, là, le fameux 2 mètres, puis une série d'autres conditions, là, puis de recevoir 40 % de la clientèle habituelle, maximum 50 %, tu peux pas vivre avec ça.
Oui, puis c'est petit, tu sais, à Montréal, il y a des petits espaces.
Ben, c'est ça, tu sais, je connais des endroits là que c'est impossible, tu sais, puis comment un restaurateur va fonctionner avec seulement, je sais pas, une dizaine de clients à l'intérieur?
Et tu sais, des visières, des gants, des sarraux, c'est pas très, très le fun comme expérience de restauration. Le point intéressant aussi, c'est de se demander, puis on veut tous les encourager, mais est-ce que le modèle d'affaires peut survivre après la COVID? Tu l'as dit, il y a des restaurateurs qui doivent rouler le samedi soir une, deux, trois fois les tables pour rentabiliser. Si tu leur enlèves de facto 50% de la capacité, est-ce que même au niveau des cash flows, c'est possible de survivre? Mais en attendant, effectivement, faut au moins en parler. Deuxième point important, si t'aides les restaurateurs, cette catégorie de gens-là, précisément. Mais là, t'ouvres une boîte de Pandore parce que là, toutes les autres industries vont dire « OK, mais la culture, l'événementiel, les parcs, donc il n'y aura pas de fin à dire pourquoi eux ont quelque chose de spécial et nous aussi qui crèvons de faim, nous n'avons rien. » Donc, c'est une réflexion à avoir.
Merci, monsieur. Bonne fin de semaine. 7h23.